à lire, donc. Au fond, on est pas mal assis, hein. Peut-être que je continuerai après, je ne sais pas. Romains chapitre 8, verset 28. Voilà, nous saluons tous les visiteurs et les vacanciers qui sont parmi nous, les touristes, que Dieu les bénisse et que la grâce de Dieu soit sur eux pendant le séjour qu'ils passeront parmi nous. Voilà, les enfants rejoignent avec leur moniteur les classes d'école du dimanche, le culte junior. Et nous, nous ouvrons donc la parole de Dieu pour une première lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et au verset 28. Je pense que vous connaissez ce passage, mais pas un problème si on le relit encore une fois. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quel merveilleux passage, vous ne trouvez pas? Qui renouvelle notre foi dans l'espérance chrétienne. Alors, c'est vrai que dans les églises, on rencontre deux catégories de personnes. Je ne dis pas les bons et les mauvais, tel n'est pas mon propos, mais on rencontre des gens qui mènent leur vie chrétienne avec beaucoup de désinvolture, de laisser-aller, et malgré les exhortations au travers des prédications, parfois même les exhortations en privé qu'on peut leur adresser, sont pour nous des sujets d'inquiétude parce que on se dit, mais qu'en sera-t-il pour eux lorsque le Seigneur viendra chercher son peuple? Seront-ils trouvés prêts? Ça, c'est une première catégorie de gens. Mais à l'inverse, dans les églises, il y a aussi des gens qui sont extrêmement scrupuleux, je dirais même excessivement scrupuleux, et qui ont toujours peur de ne pas en avoir assez fait pour plaire au Seigneur et pour, entre guillemets, mériter son salut. La parole de Dieu dit que ces gens-là, ce sont ceux qui ont une conscience faible. Voyez, il y a des gens qui ont perdu leur bonne conscience, qui, sous prétexte que la grâce de Dieu couvre tout, eh bien, se sont laissés aller aux pires excès, mais il y a aussi les autres qui manquent de certitude, qui manquent d'assurance, et qui sont perturbés quant à la réalité de leur salut, qui se posent mille et une questions. Je me souviens d'une sœur que nous avions dans une église, par ailleurs, une, une femme qui aimait Dieu, qui aimait la prière, qui aimait la parole, qui était fidèle, qui ne vivait pas, loin s'en faut, dans le péché. Mais chaque fois qu'il y avait un appel aux pécheurs, à la repentance, à la conversion, elle se levait. Alors j'allais la trouver, je lui disais, Jeannine, mais enfin Jeannine, vous êtes une enfant de Dieu, c'est pas chaque fois qu'on secoue un peu le cocotier qu'il faut vous en tirer automatiquement visé. Vous devez croire que la grâce de Dieu a couvert votre passé, même s'il n'a pas été glorieux, c'est vrai qu'il n'avait pas été glorieux, et que Dieu vous a fait grâce. Alors ce matin, voyez, eh bien je voudrais me servir de la parole de Dieu, ou plutôt servir la parole de Dieu, pour que soit renouvelée, stimulée en nous la certitude de notre salut. Alléluia. L'assurance de notre salut. À la lumière de ce texte et de bien d'autres, et nous en évoquerons quelques-uns ce matin, nous pouvons, par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, avoir l'assurance de persévérer dans les voies du Seigneur et être effectivement et finalement sauvés. Alléluia. Je me souviens de ce temps où j'étais déjà dans le ministère depuis un certain nombre d'années, et puis, vous voyez, je me posais des questions, je m'en pose toujours d'ailleurs, hein, sur moi, et je me disais, oui, mais aujourd'hui, là, t'es plein de zèle, de ferveur, t'aimes le Seigneur, tu veux marcher avec lui, tu veux lui plaire, mais est-ce que, je sais pas, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ou plus, j'étais jeune à l'époque, tu prendras pas un coup de folie qui t'amènera à te détourner du Seigneur. Et ça me troublait, vous voyez. Aujourd'hui, ok, mais demain, qu'en sera-t-il? Et puis, j'ai déjà rendu ce témoignage. Dieu a parlé mon cœur, parce que Dieu parle. Hein? Dieu parle, pas tous les 3 matins, mais il parle. Et il m'a parlé par sa parole, un texte qui dit, et ça a été pour moi une révélation, c'est le Seigneur qui me disait ça, au travers d'un texte de l'Écriture. Près de moi, tu seras bien gardé. Voilà. Et j'ai compris, vous voyez. J'ai compris que si je demeurais près du Seigneur, quelle que soit par ailleurs ma misère, ma faiblesse, ma maladresse et tout ce que vous voudrez d'autre, ma nature humaine, le Seigneur saurait me garder en lui. Voilà. Alors nous pouvons avoir, entretenir et maintenir en nous, par la grâce de Dieu, l'assurance de persévérer et être effectivement, finalement sauvés. Pour l'instant, l'Écriture dit que nous sommes sauvés en espérance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas laisser place au doute, non. Mais nous sommes sauvés dans l'attente de notre introduction prochaine, au jour de sa venue, dans le royaume de Dieu. Alors, comment avoir une telle assurance par rapport à notre salut? Comment être assuré que nous pourrons persévérer et être finalement un jour accueillis dans sa présence glorieuse? Bien sûr, il y a notre responsabilité personnelle. D'abord, pour être sauvé, il faut se convertir. Hein. Ça, c'est évident. On en a dit quelques mots tout à l'heure. Il y a eu un don spirituel dans ce sens. Amis qui êtes parmi nous, si vous n'avez pas fait cette expérience initiale de la conversion à Jésus-Christ, ce matin, vivez-la. Dans un élan de cœur, tournez-vous vers le Seigneur, demandez-lui grâce, pardon, miséricorde, pour vos fautes, vos erreurs, vos péchés. Croyez que Christ, donnant sa vie sur la croix, tout accompli pour effacer les misères de votre vie, les péchés de votre existence, et vous recevrez sa grâce. Il y a la responsabilité personnelle, et à partir de cette expérience de conversion initiale, il s'agit bien sûr d'être vigilant et de rester attaché au Seigneur. La responsabilité personnelle, telle est l'une des bases de l'assurance que nous pouvons avoir de notre salut. Mais avant même, notre responsabilité personnelle, il y a la foi dans la grâce de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pas moi qui me sauve. Je me sauve même pas par ma repentance ou par ma foi. C'est la grâce de Dieu qui vient et qui vient en premier, n'est-ce pas? Dans l'Épître aux Éphésiens, je vais citer ou lire, et vous lirez avec moi, vous écouterez pas mal de textes aujourd'hui, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, au verset 3, voici ce que l'apôtre inspiré par le Seigneur, bien sûr, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Écoutez ça. En lui, en Christ donc. « Dieu nous a élus, ou choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. » Le texte nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Vous voyez, ça donne le vertige, ça. Avant même que le premier atome de la poussière de l'univers ne soit créé, avant que Dieu ne dise que la lumière soit et la lumière fut, nous avons été, dans la pensée de Dieu, élus de toute éternité. Notre salut a été préparé de toute éternité, et nous-mêmes, alors que nous n'existions pas encore, mais Dieu par avance nous connaissait, nous-mêmes, nous avons été également préparés de toute éternité en vue du salut, pour le salut en Jésus-Christ. Ce salut ayant pour but non seulement de nous permettre d'échapper à l'enfer, mais je ne sais pas si vous avez pris garde au texte que nous avons lu précédemment dans l'Épître aux Romains, n'est-ce pas, où il nous est dit que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez, le but, le projet, l'intention, le dessein de Dieu, ce n'est pas seulement de nous permettre d'échapper à l'enfer, c'est de nous amener dans le ciel et de nous rendre là semblables à son Fils Jésus-Christ. Semblables à son Fils Jésus-Christ. Jésus d'ailleurs lui-même, nous dit l'Épître de Pierre, était l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Premier Épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, il est l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. C'est par lui, c'est par son sacrifice, c'est par son œuvre, c'est par sa personne, c'est par sa résurrection que le salut est rendu possible pour l'homme pécheur. Ainsi, voyez-vous, la parole de Dieu nous présente deux vérités, non pas contradictoires, mais complémentaires. D'abord, la première vérité enseignée par la parole de Dieu, c'est la responsabilité humaine. J'en ai dit deux mots tout à l'heure. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Il nous appartient, certes, de répondre volontairement et personnellement à l'appel du Seigneur. On connaît ce texte de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, verset 20, dans lequel le Seigneur dit « Voici, je me tiens à la porte ». Et je frappe la porte du cœur, la porte de ta vie et de la mienne. Si quelqu'un entend ma voix, ben voilà la responsabilité, et ouvre la porte, le Seigneur frappe, et c'est à nous à ouvrir. Le Seigneur frappe, mais c'est à nous à ouvrir. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Voilà, il nous appartient de répondre volontairement, personnellement, à l'appel du Seigneur. Et ceci nous incite à la vigilance, voyez, parce que nous sommes exhortés par la parole de Dieu à ne pas endurcir notre cœur quand nous entendons sa voix. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 7, voilà, l'apôtre qui rédige cette magistrale épître dit cela, n'est-ce pas? Hein? C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent. Et il remet ça au verset 15, quelques lignes plus loin. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et au chapitre 4, encore, n'est-ce pas, au verset 7, une troisième fois il répète, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Eh oui, parce qu'il y a des cœurs qui se sont excessivement fermés, endurcis à l'extrême, malgré les appels à la grâce du Seigneur. On pourrait citer, je ne sais pas moi, un exemple particulier, l'exemple de Judas. Cet homme a endurci son cœur.
Combien d'occasions a-t-il eu de se jeter aux pieds du Seigneur en disant, Seigneur, je suis un misérable, je suis un avare, je suis un pauvre gars. Seigneur, arrache-moi ma misère, pardonne-moi ma folie, mon vol, mes malversations. Et Dieu lui aurait fait grâce, mais il a endurci son cœur. Donc, ça c'est la responsabilité humaine. Et il faut donc être vigilant pour que cet endurcissement extrême ne se produise pas en nous, mais que nous répondions à l'appel du Seigneur. Mais la deuxième vérité, c'est que après, ou plutôt avant la responsabilité même, notre salut tout entier dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve de A à Z. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous et moi, du moins la plupart d'entre nous, je pense, si nous avons pu croire, si nous avons pu un jour apprendre à mettre notre foi dans l'amour de Dieu, dans l'œuvre de Christ, ça aussi, c'est l'effet de la grâce divine. Il a su, lui, par sa parole et par son esprit, il a su, en Jésus-Christ, susciter, communiquer la foi à notre cœur. Alléluia. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 2, il nous est dit que nous devons avoir les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Alors, les termes employés là sont un peu compliqués peut-être. Le chef et le consommateur de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est certes le sujet, l'objet de notre foi. Mais certaines versions disent l'auteur de la foi, c'est lui qui suscite la foi en notre cœur et qui saura la mener à la perfection. C'est dans ce sens qu'il est le chef et le consommateur de la foi. De la foi. Et savoir que c'est par grâce, que tout est par grâce, tout est par grâce, ça confère à notre cœur la certitude qu'étant, comme nous l'avons lu tout à l'heure, prédestinés en Jésus-Christ, nous parviendrons, soutenus par sa grâce, nous parviendrons à persévérer et finalement à entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Nous irons au ciel par la grâce de A à Z. Attention, ce que je viens de dire n'est pas un prétexte pour se laisser aller, prétexte au laxisme, à la désinvolture, à la légèreté, en disant « tout ira bien, je peux mener une vie de patachon, Dieu s'arrangera pour me sauver toujours ». Non, 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 pas du tout. Mais ce qui vient d'être dit, n'est-ce pas, cette insistance sur la grâce de Dieu qui est le fondement de la foi de A à Z, confère à notre cœur un profond sentiment de sécurité qui repose en Dieu, alléluia, qui repose en Dieu, lequel nous a sauvés, oh je le répète tant et plus, mais ça fait rien, nous a sauvés par sa seule grâce imméritée, sa faveur gratuite. Alors vous avez ces deux vérités, la responsabilité humaine, n'est-ce pas, et la grâce surabondante, la grâce toute puissante, la grâce, n'est-ce pas, du Seigneur, qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et il nous faut rester attachés à ces deux vérités. Il nous a aimés, le Seigneur. Amen. Et il nous aime encore. Et pourtant, nous ne sommes pas toujours aimables. Il nous a aimés. Et nous ayant acquis, rachetés à grand prix, nous sommes extrêmement, infiniment précieux à ses yeux. Alléluia. Pour le Seigneur, vous êtes des gens importants. Non pas que vous soyez des phénix, ni moi non plus. Non pas que le Seigneur eh bien, est muet d'admiration quand il regarde nos petites personnes. Mais c'est l'amour qu'il nous a manifesté. C'est le prix auquel il a consenti pour nous sauver qui nous donne de la valeur, de l'importance à ses yeux. Regardez dans Ésaïe chapitre 43 ce que le Seigneur dit. Pourtant c'est dans l'Ancien Testament, mais on peut s'appliquer ça, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Ésaïe
43, verset 1er. Alors, il parle d'Israël, le peuple de Dieu, par excellence. Si vous voulez, à la place d'Israël ou Jacob, vous pouvez mettre votre nom à vous, vous sentir personnellement impliqué. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Alain. Ça, c'est pour moi. Celui qui t'a formé, ô Alain, ne crains rien car je te rachète. Amen. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ce n'est pas l'Égypte et l'Éthiopie qui l'a donné à notre place. C'est Jésus qui l'a donné à notre place. Je donne, parce que tu as du prix, verset 4, tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Voilà, alléluia. Tu as du prix, tu as de la valeur, tu as de l'importance. Il y a des gens parfois qui se méprisent. Ils se disent, excusez-moi les expressions que je vais employer, je suis un pauvre type, je suis une pauvre femme, il n'y a rien de bon en moi, je suis capable de rien. Mais non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur vous regarde. Vous êtes précieux, alléluia. C'est pas autant un enfant peut être chéri par son père, par sa mère, autant Dieu vous chérit. Et il tient à vous, il tient à moi. Regardez ce qui est dit encore dans cette même pensée, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, et au verset 6, voilà. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Il n'est pas mort pour des gens qui en étaient dignes, vertueux, bons, excellents, parfaits, méritants. Non, des pécheurs. Des pécheurs. Écoutez la suite, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Que le Seigneur soit béni. Après nous avoir rachetés de nos péchés si chèrement, le prix du sang de Jésus, lequel est mort en rançon pour nous, après nous avoir rachetés à si grand prix, Dieu ne va pas nous laisser à nouveau nous perdre si facilement. Mais il va tout mettre en œuvre dans sa souveraineté pour nous maintenir dans le salut qu'il nous a accordé. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, qui est le bon berger donnant sa vie pour ses brebis, dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 26, la chose suivante, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » On est les brebis du Seigneur. Hein? Ce n'est pas trop futé, une brebis. Hein? Ce n'est pas très malin. Hein? Excusez-moi, nous ne sommes pas trop futés, nous, les êtres humains, même si on se prend pour des caïds, des fois. Hein? « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, alléluia, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Amen. Nous sommes dans sa main, vous comprenez? Gardés, protégés, tenus en main. Et de l'autre côté, le diable peut tirer tant qu'il peut. Par la grâce de Dieu, il n'arrivera pas à nous décrocher parce que la main du Seigneur, elle est plus forte que la sienne. Nous demeurons dans la main du Seigneur. Autre chose qu'il nous faut dire, la puissance dont le Seigneur dispose en notre faveur. Vous avez pensé à ça? Quelle est la puissance que le Seigneur met en œuvre justement pour assurer notre salut éternel et pour nous donner par sa grâce, toujours par sa grâce, d'y demeurer? Eh bien, cette puissance, elle nous est explicitée, elle nous est présentée dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 15. Voilà, c'est un des sujets de prière et de reconnaissance de l'apôtre Paul à l'égard de ses chrétiens d'Éphèse, mais aussi à l'égard des autres chrétiens. Et il dit ceci, Paul, Éphésiens chapitre 1er, verset 15, c'est pourquoi « Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Donc un esprit de sagesse, de révélation, pour qu'on comprenne l'espérance qui s'attache à l'appel qui nous a été adressé. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et que nous comprenions aussi, je continue la lecture au verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors qu'est-ce que le Seigneur nous dit là ? Il est en train de nous dire que la puissance dont il dispose en notre faveur pour assurer notre salut, nous y maintenir, est la même puissance que celle qu'il a déployée pour ressusciter Jésus, pour le faire asseoir à ses côtés, aux côtés du Père dans les lieux célestes, pour l'établir comme chef de l'Église et pour le placer au-dessus de toute autorité, de toute domination. Cette puissance suprême, cette puissance absolue, cette souveraineté sans contestation possible, qu'il a déployée en Christ pour l'arracher au tombeau, pour le faire asseoir à sa droite dans les lieux célestes, pour l'établir comme chef de l'Église et dominateur absolu. Cette puissance-là, c'est la même que celle qu'il manifeste à notre intention pour nous maintenir dans le salut. Ça me sécurise. Alléluia. Ça me rassure. La puissance dont Dieu dispose. La puissance qu'il manifeste en ma faveur. Certes, il ne faut pas oublier ça. Pour parvenir finalement au salut, il y a quand même tout un travail de sanctification qui doit se faire. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mais, même cette sanctification, c'est lui qui l'amène à bien en nous. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous façonne, qui nous transforme, qui modèle notre caractère, qui peu à peu, au cours des années passées de communion avec lui, n'est-ce pas, eh bien, va nous permettre de nous débarrasser de ce qui n'est pas glorieux et de recevoir, eh bien, le fruit de l'Esprit. Certes, nous devons évidemment collaborer avec lui dans cette œuvre de sanctification, faire preuve, Seigneur, aide-nous, de docilité, de soumission, d'humilité, d'obéissance, mais en définitive, c'est quand même lui seul qui peut accomplir son œuvre. Jésus n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien, mais alors rien. Rien faire. Un jour, un homme disait, Seigneur, montre-moi ce que je vaux. Alors, il est passé devant une fenêtre qui était ouverte là dans la rue et quelqu'un à l'intérieur de la maison était en train de parler. Et disait, Rien et moins que rien. Oh, il a pris ça pour lui. Ben oui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais par sa grâce, tout devient possible. Alléluia. Il faut reconnaître que sur le plan naturel, il y a des gens qui ont meilleur caractère que d'autres. Vous n'avez pas trouvé ça? Il y a des gens, naturellement, ils sont gentils, c'est vrai, ils sont aimables, ils sont patients, ils sont doux. Et puis, il y en a d'autres, c'est des porcs qui piquent. Hein. Tu ne sais jamais comment tu vas te faire recueillir. Et ils sont les premiers à être malheureux, à dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Mais les deuxièmes ne sont pas désavantagés par rapport aux premiers. Parce que la vraie sanctification, elle vient de Dieu, de lui, de son esprit, de son œuvre dans notre cœur. C'est ce qui est dit dans la première aux Thessaloniciens. Regardez, chapitre 5 et le verset 23, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Écoutez ça. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible ou sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. C'est lui qui le fera. Bien sûr que moi, il faut que je mette ma vie à sa disposition. Seigneur, regarde, tu as du travail. Hein? Ah là là, ma vie est un véritable chantier. Mais Seigneur, par ta grâce, Seigneur, sanctifie mon cœur. Faire preuve de docilité, je l'ai dit, d'humilité, n'est-ce pas? De remise en question, savoir s'humilier, se repentir, être obéissant, humble. Et lui fait l'œuvre. Mais c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a accompli. C'est lui, n'est-ce pas? Je ne trahis pas un secret. J'ai entendu notre frère Kevin rendre ce témoignage en public, alors je me permets de le répéter. Quand il s'est converti, il était plein de haine pour les Blancs. Parce que les Blancs, les colonisateurs, étaient venus dans son île au XVIIe siècle, ou je ne sais plus trop quand, et ils avaient massacré et réduit en esclavage les gens de son origine, de sa tribu. Alors il était plein de haine. Et sur ces entrefaits, il s'est converti. Mais ce sentiment était toujours dans son cœur, relent d'amertume. Alors il luttait, parce qu'il aimait le Seigneur, il savait ce que la parole de Dieu aimait, il disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors il faut que j'aime, que j'aime, que j'aime. Mais en dépit de tous ses efforts, il n'y parvenait pas. Et il était malheureux, et devant cet échec, au bout d'un moment, il s'est placé devant Dieu et dit, Seigneur, je ne peux pas, mais toi fais-le. Et le Seigneur l'a fait, alléluia. Le Seigneur l'a tellement fait que, vous voyez, il se trouve aujourd'hui parmi nous, hein, en France, voilà, où il y a quand même pas mal de Blancs, hein, même s'il y a les autres aussi, béni soit Dieu. Et le Seigneur a changé son cœur. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui le fera. Alors peut-être vous n'avez pas ce problème-là. Peut-être vous ou moi, nous avons d'autres problèmes dans d'autres domaines. Mais c'est lui qui le fera. Place ta vie sous le regard du Seigneur. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. En conclusion, on va lire un texte ou deux. Tout d'abord dans l'Épître aux Philippiens. Ah, Épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 6. Voici ce que l'apôtre Paul dit. On peut même lire à partir du verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen, c'est encourageant ça. Hein? Et au-delà de Paul, eh bien, considérons que c'est le Seigneur qui parle et qui dit, voilà, je suis persuadé que l'œuvre que j'ai commencée, je vais la rendre parfaite.
en toi pour le jour de ma venue. Vous voyez, le Seigneur n'est pas désespéré. Hein? Désespéré de nous, désespérant de notre état. Vous savez, un jour, un professeur disait à son élève, tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Hein? Ce n'est pas flatteur, mais Dieu ne nous traite pas comme ça. Il nous dit, je suis persuadé que l'œuvre commencée, l'œuvre entamée, l'œuvre débutée, eh bien, elle sera rendue parfaite pour le jour de sa venue. Bien sûr, il faut avoir le désir d'avancer. Pas vivre sa vie chrétienne, là, vas-y que je te pousse avec des désinvolture. Mais Seigneur, tu vas rendre ton œuvre parfaite à moi. Je veux y croire. Je veux croire que tu sauras mener à bien tout ce travail, n'est-ce pas? Et nous pouvons ainsi vivre dans la paix, nous réjouissant de ce que le salut nous est pleinement acquis en Jésus-Christ. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 3, voici ce que l'apôtre dit. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, ça c'est l'action du Seigneur, êtes gardés par la foi. Ça, c'est ma responsabilité pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous comprenez? Le salut, ce n'est pas un yo-yo. Vous rappelez ce jouet qu'on avait dans l'enfance? Enfin, maintenant, les gosses, ils ne jouent plus avec ça, ils jouent avec des ordinateurs. Hein? Le salut, ce n'est pas un yo-yo. Un coup, tu l'as, un coup, tu l'as pas. Un coup, tu le prends, un coup, tu le lâches. Non, tu l'as, tu le gardes. Bien sûr, si tu envoies tout promener, c'est une autre affaire. Mais tant que tu dis, Seigneur, je veux rester avec toi. La grâce de Dieu va se manifester. La grâce de Dieu va se manifester. Nous sommes maintenus dans le salut. Et l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, nous dit encore quelque chose d'important, n'est-ce pas? Voilà, nous dit ceci. En lui, en Jésus, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel, le Saint-Esprit donc, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. La présence de l'Esprit de Dieu en nous, en moi, c'est le gage de mon héritage céleste et futur. Alléluia. C'est un acompte sur ce que je percevrai pleinement dans le royaume des cieux. Et cette présence de l'Esprit de Dieu en moi, elle affirme à mon cœur, n'est-ce pas, c'est l'Épître aux Romains qui dit cela. Esprit de Dieu atteste, témoigne à notre esprit, à notre propre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là le fondement de notre espérance. Alors, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas du tout la doctrine une fois sauvé, toujours sauvé. Hein. Parce que par ailleurs, quand même, il faut le préciser, plusieurs passages nous montrent clairement que certains, après avoir marché un temps avec le Seigneur, se sont volontairement et définitivement détournés de lui. Ils seront donc, cela, déchus de la grâce et, hélas, finalement perdus. Donc, il faut qu'il y ait la vigilance, la persévérance, puisque c'est jusqu'à la fin qu'il faut persévérer pour être sauvé. Mais d'autre part, toutes les promesses citées dans cette méditation, et bien d'autres, nous permettent de proclamer avec assurance, par sa grâce, je sais que j'entrerai un jour dans le Seigneur, dans le ciel, où le Seigneur m'a précédé, amen, où il est allé me préparer une place, amen, et d'où il reviendra me chercher pour me prendre avec lui. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 1er.
n'est-ce pas? Avant de connaître la crucifixion et puis tous les événements qui se sont déroulés par la suite, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 1er, le Seigneur dit à ses disciples et par là même à nous, « Que votre cœur ne se trouble pas. » Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, quelle grâce